Habemus Papam.
Fin du 8e siècle, Charlemagne règne sur une Europe unifiée. À Rome, Adrien Ier siège sur le trône de Saint-Pierre depuis plus de 20 ans. Il décède en 795, cédant la place le lendemain même au pape Léon III. Yvan Gobry, auteur d'un dictionnaire des papes paru en octobre aux éditions Pygmalion, nous raconte.
Adrien Ier, l'ami de Charlemagne, était mort le jour de Noël de 795. Dès le lendemain, Léon fut élu pape d'une voix unanime et consacré le surlendemain.
Celui qui sera Léon III est issu d'un milieu modeste.
Léon était le fils d'un Romain nommé Asupius. Il fut confié, nous dit le Liber Pontificalis, qui est la plus ancienne chronique de ce siège, dès sa plus tendre enfance, à la fameuse école cléricale Saint-Jean de Latran, où il apprit les belles lettres, la science des Écritures et le chant liturgique, un clerc complet. Il reçut successivement le sous-diaconat, le diaconat et le sacerdoce. Sa vie, continue le Liber Pontificalis, était pure. Son cœur ferme et constant. Il aimait à distribuer les aumônes, à visiter les infirmes. Et ce fut ainsi qu'il devint cardinal-prêtre du titre de Sainte-Suzanne.
Le nouveau pape va, comme son prédécesseur, entretenir de très bonnes relations avec Charlemagne.
Charlemagne revenait d'une campagne victorieuse sur le Danube. Il a pris les trois événements en même temps. La mort, bien, élection, éon et la consécration. Il fit envoyer au nouveau pape les plus belles de ses prises de guerre, tant en outre à renouveler par une lettre solennelle la fameuse donation territoriale qu'il avait faite à Adrien Ier.
À Rome, la situation politique est complexe et le nouveau pape n'est pas apprécié par tous.
Le 25 avril 790, il se rendait en cortège à l'église Saint-Marcel et chantait les litanies. En cours de route, une bande de sicaires, aux ordres du primicier, c'est-à-dire du chambellan Pascal, sacellaire, c'est-à-dire du trésorier Pompulus, se jeta sur le pape et le renversa à terre. Les agresseurs lui crevèrent les yeux, lui arrachèrent la langue, le rouèrent de coups de bâton et le jetèrent dans l'église des saints Étienne et Sylvain. Est-ce que l'événement était si grave? Le rédacteur de Liber Pontificalis, qui est un clerc contemporain de l'attentat, qui était à Rome à ce moment, se porte garant des faits. Les agresseurs, pour consommer leur forfait, allèrent de nuit tirer leur victime de l'église où elle gisait pour la jeter dans un cachot du monastère Saint-Érasme devant lequel ils apostèrent des gardes. Les témoins avaient cependant répandu la nouvelle. Elle courut jusqu'à Spolète, où le duc Vinicius réunit une armée et se précipita à Rome. Elle livra le pape qui voyait, qui chantait les louanges du Seigneur. Le pape aveuglé, dont on avait arraché la langue, voyait et chantait. Toute la ville de Rome cria au miracle. Le pape décida de confier sa détresse et son espoir à Charlemagne, son protecteur. Une rencontre eut lieu à Paderborn, en Westphalie, où séjournait à ce moment le roi des Francs. Celui-ci convoqua l'assemblée d'évêques et de dignitaires, qui reconnut et acclama Léon pape. Cédant aux instances de ce pape, Charlemagne décida de l'accompagner jusqu'à Rome. C'était beaucoup plus prudent. Ils y arrivèrent le 28 novembre 790.
Entre-temps, les agresseurs du pape sont arrêtés et jugés.
Avec Franc, diligentèrent une enquête sur l'attentat, firent comparaître Pascal, Pompulus et leurs affidés, qui ne purent nier ni justifier leur conduite. Ils furent détenus à Rome d'abord, avant d'être expulsés dans une prison du royaume franc. Les bourreaux du pape étaient revenus à Rome où leur procès s'ouvrit. Il fut rapide et se termina par une condamnation à mort. Léon implora leur clémence. Il demanda d'épargner aux condamnés non seulement la mort, mais même la mutilation, ne subir que l'exil.
Profitant de la présence de son protecteur, Léon III décide alors de le couronner, relevant une dignité prestigieuse disparue depuis 5 siècles en Occident.
Léon décida alors de complicité avec les dignitaires francs et à l'insu, semble-t-il, du roi lui-même, de ressusciter la dignité impériale en faveur du glorieux souverain des Francs, protecteur de la papauté. Durant la nuit de Noël 800, alors que se tenaient dans la nef de Saint-Pierre, pour la messe pontificale, tous les dignitaires de Rome, de la Gaule, de l'Italie, de l'Aquitaine, de la Saxe, de la Bavière. Léon III posa sur la tête de Charlemagne la couronne impériale.
Les deux hommes vont se retrouver quelques 10 ans plus tard, à l'occasion d'une des plus grandes querelles théologiques du Moyen-Âge, la querelle du Filioque.
La communauté d'un monastère franc de Jérusalem avait introduit dans le credo le mot « filioque ».
Ainsi, alors que depuis le concile de Nicée au IVe siècle, le credo professait « l'Esprit procède du Père », ils avaient ajouté « et du Fils ».
Ce n'était pas tout à fait une nouveauté. C'était déjà un usage adopté par les évêques espagnols au IIIe concile de Tolède. Mais les Grecs de Terre Sainte traitèrent les moines francs d'hérétiques. Les moines francs se plaignirent à Charlemagne. Et Charlemagne, au lieu d'agir en son nom personnel, provoqua en novembre 809 à Aix-la-Chapelle un concile franc qui justifia l'introduction du filioque dans le symbole de Nicée. Ce n'était pas hérétique que les pères du concile s'appuyaient sur les docteurs de l'Église. Mais enfin, c'était des involtes, voire téméraires, de la part d'un simple laïc, même empereur, de modifier le vénérable credo de l'Église universelle. Charlemagne tâte à obtenir l'approbation du pape, autrement dit, la bénédiction du fait accompli. Léon blâma l'initiative, mais, comme la doctrine n'était pas condamnable, il autorisa l'usage, en refusant cependant de l'étendre à l'Église universelle.
Et c'est au XIe siècle que la formule sera finalement généralisée, et elle fut en grande partie responsable du schisme avec l'Église d'Orient.
Léon III mourut le 12 juin 816, après un pontificat de plus de 20 ans, et il fut inhumé dans la basilique Saint-Pierre.
C'était l'historien Yvan Gobry qui vient de publier un dictionnaire historique des papes aux éditions Pygmalion.